Ah, vas-y, vas-y. Bon, alors, merci Yves, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Je suis absolument ravie, mais un peu inquiète de vous faire cette présentation ce soir, parce que le Sénat, c'est quand même un endroit particulier. C'est un endroit où les gens qui se réunissent sont réputés pour être sages. Donc, comme moi, de temps en temps, j'aime bien m'amuser, puis des choses un peu rigolotes. Je pense que ça, il ne faudra pas que ce soit noté au procès-verbal. Je vais essayer de vous faire vivre un petit peu le Sénat. Alors, pour m'aider, il y a ce soir avec moi François, qui est mon collaborateur parlementaire, puisque je travaille, je dirais, dans la circonscription, bien que les sénateurs n'aient pas de circonscription, mais tout le département, avec une permanence parlementaire qui est à Châtenois-le-Royal. Je n'ai pas besoin de développer l'endroit où j'ai installé la permanence parlementaire. Donc il y a François qui travaille avec moi, puis aussi Frédéric, chacun ayant sa spécialité, un plus le droit et un plus d'autres relations. Alors le sénateur, c'est pas quelqu'un qui soit hors sol. Le sénateur, c'est quelqu'un que vous allez vite connaître, comprendre, parce que notre rôle le plus important, c'est celui de fabriquer des lois, mais les lois, elles viennent de vous. La loi, elle vient des hommes, la loi, elle vient du peuple. Que ce soit le projet de loi bâti par le gouvernement, ou que ce soit la proposition de loi venant des sénateurs ou des députés, ça s'appelle aussi une proposition de loi. Le projet de loi, quand il vient du gouvernement, ça vient des hommes. Parce que quand on élit un président de la République, on l'élit sur un projet. Et ce projet, il va être transformé en loi. Alors, le régime français, c'est le président de la République et ses deux chambres. L'Assemblée nationale, le Sénat. Alors, il y a une phrase très jolie pour introduire le sujet de Georges Clémenceau. On en a parlé puisque nous avons parlé de Georges Clémenceau lors de la célébration du 11 novembre. Pendant une partie de ma vie, j'ai eu foi en la chambre unique comme émanation directe du sentiment populaire. J'en suis revenue. Les événements m'ont appris qu'il faut laisser au peuple le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, c'est le Sénat. Donc c'est très joliment dit et moi je vais vous le résumer autrement. À l'Assemblée nationale, on se dispute. Au Sénat, on discute. Et c'est exactement ça. On peut se dire que dans le mode d'élection, les députés, donc l'Assemblée nationale, cette élection a lieu juste après l'élection présidentielle. Donc vous avez une espèce d'envol, je dirais, qui fait que l'Assemblée nationale colle à ce que pense le président de la République. Et c'est normal, et c'est bien. C'est bien que ce soit comme ça. Mais donc, les députés qui sont un petit peu plus tout fous que nous, eh bien, ils vont avoir envie de faire des lois de pulsion. Parce que tout simplement, il faut coller au désir du peuple, à la vox populi, et donc à l'élection qui vient d'avoir lieu. Le Sénat, c'est plus posé, c'est plus réfléchi, parce que le Sénat ne dépend pas de l'élection présidentielle. Le Sénat ne s'arrête jamais. Il est renouvelé par moitié, donc il y a toujours une continuité dans la fabrication de la loi. Alors, la commande du président Yves Fournier a été tout d'abord... Il m'a demandé de parler un peu plus de l'histoire du Sénat. Alors, l'histoire en tant que palais, ça m'intéresse bien parce que la première pierre a été posée en 1615 par Marie de Médicis. Donc, je trouve qu'une Marie qui a fait quelque chose là, je sais pas, je trouve que c'était sympa de vous en parler. Mais je crois que la commande de Yves, c'était plus l'histoire du Sénat en tant que chambre haute et tant qu'apport dans la vie politique française. Donc là, je vais laisser François vous parler de l'histoire du Sénat, comment le Sénat a été un apport. Vous avez eu droit à un appareillage comme ça, François? Ah ben non, mais il y a une discrimination, hein, je pense que vous devriez... Oui. Ben évidemment qu'il va parler. Ben. J'ai l'impression qu'on bouleverse un peu des choses là, mais t'as l'habitude à Châtenois.
On est très
adaptable. J'espère bien. Ah ben oui. Alors François, l'auditoire est très sympathique. Je les connais tous, ils sont très gentils. Alors je vous en prie, c'est à vous de parler. Vous nous faites ça en trois quarts d'heure, une heure et demie. Dès qu'ils s'endorment. Oui, non, mais je le surveille parce que... Voilà. Allez, François, hop, le Sénat dans l'histoire.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci à Madame le Sénateur pour me laisser parler et vous donc évoquer un petit peu brièvement l'histoire du Sénat en tant qu'institution. Donc, une première étape qui est importante, c'est à savoir donc ce qui est écrit ici, le serment du jeu de paume, qui est la transition vraiment entre la souveraineté royale, c'est-à-dire le monarque de droit divin qui était détenteur de l'autorité par la grâce de Dieu, et la transition au moment du serment du jeu de paume. On passe donc de cette souveraineté royale à la souveraineté nationale, c'est-à-dire que les députés présents qui prêtent serment déclarent qu'ils sont à même de donner une constitution à la France, et donc c'est eux maintenant qui représentent le pouvoir. Sous la période révolutionnaire, le Parlement français restera monocaméral, c'est-à-dire une seule chambre, la constituante, la législative, la fameuse convention, et à la chute du Robespierre en 1794, la question de l'organisation des assemblées va se poser. Et il y a une très belle citation de Boissy d'Anglas. Boissy d'Anglas, qui était un homme politique à l'époque qui n'était pas un montagnard, c'est-à-dire qui n'était pas partisan de Robespierre, et qui a eu cette belle phrase en disant: le gouvernement de la France doit revenir au meilleur, et de telle sorte il faut que la pensée, la fabrique de la loi se fasse en deux temps, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas une assemblée qui légifère à toute vitesse et à côté pas de temps de réflexion. Donc ça, c'est sous le directoire. L'Empire, on passera rapidement sous les constructions constitutionnelles de Napoléon, qui avait cette phrase: une constitution doit être courte et obscure, puisque c'est ce qui permet d'avoir le plus les coups des franges pour le dirigeant. Arrive ensuite la période de la Restauration, 1815-1830, où là, c'est vraiment les prémices du parlementarisme à la française, inspirées du parlementarisme anglo-saxon, une chambre des pairs qui correspondait à la chambre des lords britanniques, et une chambre des députés qui correspondait à la chambre des communes. C'est la Troisième République qui va, elle, vraiment pérenniser le Sénat en la dotant d'un bicamérisme presque parfait. Je recherche la télécommande pour vous montrer la suite. Merci. Donc voilà, Troisième République qui installe donc le Sénat de manière pérenne. Le Grand Conseil des communes de France, dira Gambetta à l'époque. Donc on retombe sur des attributions assez similaires à celles d'aujourd'hui. Quatrième République, donc sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un référendum rejette un premier projet de constitution qui portait organisation d'un parlement monocaméral, c'est-à-dire sans Sénat. Et le deuxième projet qui sera approuvé, qui deviendra le régime de la Quatrième République, comportera donc une chambre des députés et ce qu'on appellera le Conseil de la République, qui sera donc l'équivalent du Sénat, chambre de réflexion, dira pour le coup Léon Blum. Arrive donc bien sûr la Ve République, donc constitution du 4 octobre 1958, dont on fêtera les 60 ans l'année prochaine. Donc place importante du Sénat dans les organisations. Le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État. Il assure l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le bicamérisme est presque parfait, c'est-à-dire presque à égalité entre les deux, puisque c'est le gouvernement qui fait choix de donner le dernier mot aux députés en cas de désaccord prolongé entre les deux chambres. Le président du Sénat peut également donc nomme trois membres du Conseil constitutionnel, un tous les trois ans, comme le président de la République et à l'image également du président de l'Assemblée. Donc voilà, la place du Sénat. Et il y a une chose quand même qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour l'objectif du constituant de la Ve était de lutter contre le parlementarisme un peu débridé qui avait phagocyté et la fin du régime de la Troisième et la Quatrième République. Donc on va recourir à des instruments de parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire réduire le domaine d'action du Parlement, et ça se matérialise notamment par deux articles de la Constitution. Le premier définissant ce qui sera du domaine exclusivement de la loi, c'est-à-dire le travail des parlementaires, et l'autre article définissant ce qui sera du domaine réglementaire, c'est-à-dire là où le gouvernement peut agir seul sans avoir besoin d'avoir recours au Parlement. Les relations du Sénat avec le pouvoir gaulliste vont très vite se tendre. Tout d'abord, parce que le général de Gaulle tente donc de mettre un peu les parlementaires au pas, et il va y avoir la fameuse crise de 1962 où le général de Gaulle va faire choix d'avoir recours au référendum de l'article 11 pour faire procéder à l'élection du président de la République au suffrage universel. Or, les députés ne sont pas d'accord, les sénateurs non plus, puisque c'était une de leurs prérogatives que d'élire le président de la République. Monnerville dénoncera une forfaiture à l'encontre du chef de l'État. Donc forfaiture, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, peu de temps après la fin de la guerre, pour se rendre compte de la force du mot, c'est-à-dire quasiment accuser le chef de l'État de haute trahison. Les députés se rebelleront, renverseront le gouvernement de Georges Pompidou. C'est la seule fois sous la Ve République où un gouvernement sera renversé. Et le général de Gaulle rétorquera en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il finira par gagner sur les deux tableaux, puisqu'il fera accepter à plus de 62% le référendum sur le suffrage universel pour l'élection du président de la République, et ça sera un raz-de-marée gaulliste à l'Assemblée nationale. Donc le Sénat reste marginalisé vraiment hein, tout le long du reste du pouvoir du général de Gaulle, jusqu'au fameux référendum de 69, eh bien, où il propose d'une part la régionalisation, et deuxièmement, une espèce de fusion du Sénat avec le Conseil économique et social, ce qui peut rappeler des choses qu'on entend actuellement encore. Hein, donc, déjà en 69, c'était le cas. Mais le général de Gaulle donc, perd le référendum, abandonne le pouvoir comme il s'y était engagé. Sous le pouvoir Pompidolien et Giscardien, bon, le Sénat est là, apporte sa contribution à la fabrique de la loi, sans remise en cause profonde hein, de son rôle. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 80 est aussi très intéressante, puisque là on se retrouve avec un Sénat qui est d'une couleur politique opposée vraiment à celle du gouvernement et de l'Assemblée. Et les sénateurs resteront véritablement fidèles à cet esprit de chambre de réflexion, c'est-à-dire que il y aura quand même des textes, même une énorme majorité de textes qui seront adoptés dans les mêmes termes. C'est-à-dire que le Sénat ne s'est jamais positionné comme une chambre d'opposition brutale, mais vraiment comme une chambre de réflexion, et a toujours apporté sa contribution pour faire évoluer les textes et puis pour finir par les faire adopter. Dernier grand point du Sénat, enfin de cette histoire, c'est les sénatoriales de 2011, qui voient pour la première fois sous l'histoire de la Ve République, le Sénat basculer à gauche. Il restera à gauche 3 ans et les sénatoriales de 2014, donc qui concernaient le département de Saône-et-Loire, puis celle de 2017 les sénatoriales de 2017 pour lesquelles les grands électeurs de Saône-et-Loire ne votaient pas, a également vu un renforcement donc, de la majorité précédente et donc actuelle au Sénat. Voilà.
Bon. François, c'est parfait, ça a été assez rapide. Ah oui, j'en ai fait deux. Alors ça. Et on a parcouru l'histoire de France au grand galop, là. Hein. Mais je pense que l'essentiel, c'est que vous compreniez combien le Sénat est indispensable. Bon, je le dis comme ça, mais je crois que vraiment, Victor Hugo, qui était sénateur, a dit que s'il n'y avait qu'une chambre, ce serait l'océan gouverné par un ouragan. Mais au Sénat, vous avez la force et le poids de l'histoire. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de le visiter et j'espère que je pourrai vous accueillir au mois de mars puisque le 12 mars, le président m'en a parlé. Et vous verrez que dans l'hémicycle, il y a des ronds en cuivre avec dans le nom gravé d'anciens sénateurs. Et donc ce lieu, il porte la mémoire, mais il porte le poids de cette histoire. Et on se sent obligé quand on est dans un lieu pareil. On se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose de sage, de construit et de réfléchi, et que le Sénat est là pour ça. Donc on peut simplifier en disant que le Sénat, finalement, c'est un stabilisateur institutionnel, garant des institutions, que le Sénat n'est pas, à proprement parler, un contre-pouvoir. C'est pas dans l'état d'esprit d'un sénateur de faire un contre-pouvoir. Par contre, le sénateur, il est là pour apporter une voix différente, pour essayer d'apporter une autre réflexion et une autre mesure aux choses. C'est vrai que c'est un grand programme, c'est certainement très ambitieux, mais c'est réellement la différence avec l'Assemblée nationale où les choses là vont être beaucoup moins fleuries, je dirais, y compris dans le langage. Quand on se promène au Sénat, c'est calme, c'est reposé. Vous n'avez pas des micros qui se tendent partout, il n'y a pas des ébouis comme ça partout. C'est un endroit où réellement c'est la réflexion qui prime. On est là pour réfléchir et faire en sorte que notre travail soit repris par l'Assemblée nationale. Parce que le Sénat ne peut pas être dissous, alors que l'Assemblée nationale peut être dissous, mais à contrario, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, tout en sachant que 63% de nos amendements sont repris par l'Assemblée nationale. 63%, c'est un chiffre considérable. Alors, quand je suis arrivée au Sénat, j'en savais beaucoup moins long que vous, ici, dans cette pièce, sur le rôle du Sénat. Alors, ma formation, qui est une formation médicale, je m'en suis servie. Et finalement, j'ai compris que la loi, c'est comme un patient quand il arrive dans mon cabinet. Alors, un patient, on l'examine, on pose un diagnostic et on propose un traitement. Eh bien, une loi, c'est pareil. Quand elle arrive pour être lue par les sénateurs, on la déshabille, c'est-à-dire qu'on examine chaque article, on pose un diagnostic. On dit, ah ben tiens, ils ont oublié le monde ultramarin, parce que les députés oublient tout le temps des trucs. Hein. Donc, ils ont oublié si ils n'ont pas écrit ça comme il faut. Et quel est le traitement qu'on va apporter ? Eh bien, c'est l'amendement. Donc l'amendement, c'est le traitement de la loi. C'est une autre façon de rédiger la loi une fois qu'on aura inclus toutes ces petites améliorations que nous appelons, nous, des amendements, et que moi, en tant que médecin, eh bien, j'appelle un médicament. C'est exactement la même chose. Donc déjà, quand vous avez compris ça, vous comprendrez tout de suite nos travaux, comment ils fonctionnent. L'amendement a-t-elle, eh bien, vous direz dans votre petite tête, eh bien, c'est le médicament que soit le député, soit le sénateur a apporté pour que la loi soit plus lisible et mieux applicable. Donc je vous donne un peu des comparaisons qui peuvent vous parler être simplettes, mais quand on passe des lois et des lois et des lois et des articles, à un moment on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus où on va, on a même oublié le sujet. Donc il faut, quand on se perd comme ça, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Donc l'amendement, c'est le traitement de la loi. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, François vous a bien expliqué, et on a un truc comme ça, alors moi j'en ai mis partout, j'en ai dans mon sac à main, comme ça dans le train je le lis, j'en ai dans mon bureau au Sénat, j'en ai à la maison, et j'ai compris que la Constitution c'était un truc hyper important. Alors, en arrivant sénateur, je suis allée à la librairie Dalloz, qui est tout près du Sénat, et puis j'ai dit, écoutez, je voudrais la Constitution. Alors, je m'attendais à ce qu'on me donne un truc énorme et machin. J'ai trouvé ce petit truc-là qui vaut la somme de 1 euro, donc vraiment. Mais par contre, le libraire m'a bien expliqué que là où les choses se corsaient, c'est dans tout ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Là, François est l'élément encore vivant pour vous en parler. Parce que vous avez la Constitution, mais vous avez, comme dans la guerre des Gaules de César, les commentaires d'eux. Et autant la Constitution, ça tient dans un sac à main, autant les commentaires de la Constitution et le droit constite, eh ben, écoutez, ça tiendrait tout autour des murs de cette salle. Donc, je n'ai pas du tout l'ambition d'être devenu un spécialiste de droit constitutionnel, et ce n'est pas notre métier. Le sénateur, ce n'est pas quelqu'un qui doit être forcément un juriste. Donc vous avez lu très aimablement sur la première page que j'étais membre de la commission des lois, ce qui pour moi était quelque chose au départ de très compliqué. Parce que je me suis dit, mais la commission des lois, il faut comprendre les lois, il faut savoir les lire, or c'est pas mon métier. Mais en fait, le législateur, c'est quelqu'un de la société civile, parce qu'on a toujours ce mot à la bouche, ben, la société civile. Tous ceux qui sont élus un jour viennent de la société civile, en grande partie. Je considère être de la société civile. Et dans la commission des lois, ils avaient besoin d'une lecture différente, c'est-à-dire de se servir de ma culture à moi, qui va être une culture différente d'un juriste. Un juriste, quand il y a un crime, il y a un crime. Le juriste, il va dire, il y a quelqu'un qui est mort, il faut faire une loi pour dire qu'on ne tue pas son prochain et qu'il faut réparer, donc on va donner une peine. Moi, en tant que médecin, je vais me dire, mais pourquoi il a tué quelqu'un? Quel a été le cheminement? Donc moi, je vais forcément, à chaque fois, avoir une méthode de travail qui va être différente des juristes. Alors, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je dis juste que c'est un apport différent. Et qu'au Sénat, ce qui est agréable, c'est d'avoir ce millefeuille, d'avoir ce partage d'expérience et de pouvoir se raconter les choses différemment. Parce que la loi, elle est fabriquée par des êtres humains. Elle devient inhumaine par moment, mais elle sera appliquée par des êtres humains. Et quelquefois, vous avez tout un tribunal qui va vous juger une chose, mais en dernier ressort, vous avez le juge d'application des peines qui, lui, va décider. Donc finalement, ça reviendra à un être humain qui décidera les choses. Donc je me suis un petit peu éloignée de mon propos concernant la commission des lois, mais quand j'ai dit que je n'étais pas capable d'être à la commission des lois, on m'a dit justement, parce que vous n'êtes pas juriste, c'est intéressant d'avoir votre regard à la commission des lois. Donc ça, c'est la règle du jeu. Quand on veut jouer à fabriquer des lois, on prend ça. Et la Constitution, elle nous encadre. Alors, chaque article est évidemment important, mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. L'article 24, le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. C'est ça notre rôle. Alors, voter la loi, c'est pas juste dire je suis pour, je suis contre. Voter la loi, c'est aussi l'amender, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, voter la loi, c'est la discuter, l'amender, et ensuite on la vote. Alors, on a différentes façons de voter la loi, mais les sénateurs, ils votent pas de façon anonyme. Alors, j'ai pensé à vous amener quelque chose. Quand on vote, alors, comme on n'est pas sûr qu'on ait bien compris, on nous a écrit dessus, hein. Bleu, c'est contre. Blanc, c'est pour. Rouge, c'est abstention. Mais vous voyez, il y a mon nom. Donc vous pouvez toujours savoir ce que j'ai voté pour tel texte de loi. Toujours. Il n'y a pas de vote anonyme au Sénat. Alors ça, je n'ai pas du tout le droit de le sortir du Sénat, donc je vais vite le remettre demain matin. Hein. Voilà. Parce que, pourquoi j'ai pas le droit de le sortir? Parce que, vous verrez, dans l'hémicycle, on a des petits tiroirs. Et dans nos petits tiroirs, donc on met le texte en cours, on met le trombinoscope, parce que là, le Sénat vient d'être renouvelé par moitié, donc on a besoin d'avoir la tête de nos collègues. Et nous avons une boîte avec ces bulletins de vote. Et ces bulletins de vote, ils sont comptés par groupe politique. Et quand il y a un scrutin public et que nous montons au plateau pour voter, on vote, quelqu'un peut voter pour tout le monde, parce que les autres ne sont pas là, sont en train de travailler ailleurs. Et ensuite, les bulletins, ils sont pesés. Il y a une balance, donc c'est très archaïque. Il y a une balance qui permet d'avoir le résultat du vote tout de suite. Alors ensuite, bien sûr, c'est compté pour affiner le résultat. Donc si jamais demain, il y a un scrutin public, je sorte mon paquet pour aller voter au nom de mes collègues, ça ne va pas aller du tout parce que vous voyez, il va manquer 3 fois 3 grammes. Donc ça ne va pas aller du tout. On va penser qu'il y a une fronde du côté des sénateurs républicains. Ce serait une très mauvaise idée. Alors, donc la règle du jeu, l'article 24, il y a 2 articles qui concernent les amendements et que vraiment on est toujours obsédé par eux, c'est l'article 40 et l'article 41. Alors, ce sont 2 articles qui nous encadrent nos amendements, qui on voit s'ils sont recevables ou pas. C'est-à-dire, quand c'est du domaine réglementaire, c'est pas le domaine législatif, donc l'article 41, on n'a pas le droit de proposer un amendement de règlement, et l'article 40, on n'a pas le droit de proposer un amendement qui déséquilibre le budget. Le budget de l'État, il est voté par la loi de finances, que nous allons examiner bientôt. Actuellement, on examine le PLFSS, c'est-à-dire la loi de finances de la Sécurité sociale, et bientôt, on va examiner la loi de finances. Et c'est la loi de finances qui nous donne le budget pour l'année, donc on n'a pas le droit ensuite de voter des lois qui ne soient pas en accord avec la loi de finances. Et ça, c'est l'article 40 qui le dit. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge public. Donc l'article 40, l'article 41, vous dégainez ça, le président du Sénat dégaine ça, et les amendements ne sont pas recevables. Voilà. Donc la Constitution, c'est indispensable dans le cartable du sénateur. Toujours la Constitution à portée de main. Alors, je ne sais pas si j'ai suivi le plan que vous avez écrit magnifiquement, François. Alors, dans le rôle du Parlement, donc voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Donc ça, je vous en reparlerai après, parce que contrôler l'action du gouvernement, c'est par l'intermédiaire des questions au gouvernement. Et contrôler l'action des politiques publiques, c'est que nous faisons des auditions. Quand nous étions en état d'urgence, on avait très régulièrement à la commission des lois l'audition à l'époque de Bernard Cazeneuve, qui était le ministre de l'Intérieur, qui nous donnait exactement le nombre de perquisitions, le nombre de gardes à vue, le nombre d'assignations à résidence, etc. On contrôle l'action du gouvernement. Alors, la conférence des présidents, c'est une réunion qui a lieu de façon très régulière parce qu'elle établit le programme du mois. Alors la conférence des présidents, elle se compose du président du Sénat et du ministre des Relations en charge avec le Parlement, donc là c'est M. Castaner actuellement, de tous les vice-présidents, c'est-à-dire du bureau du Sénat. Le bureau du Sénat, c'est le président du Sénat, les vice-présidents, les présidents de groupe, parce que vous savez, le Sénat est politisé. Alors là c'est un peu compliqué parce que à un moment, il y avait 3-4 parties, là on en a vraiment beaucoup. Bon, je ne vais pas vous les énumérer parce que ça va nous emmener trop loin. Les présidents des commissions permanentes, le président de la commission des affaires européennes et les rapporteurs, parce que de façon habituelle, les rapporteurs de la commission des finances et des affaires sociales sont toujours à la conférence des présidents, même s'ils ne sont pas présidents de commission. D'accord ? Donc ça, le rôle de la conférence des présidents, c'est de faire l'ordre du jour. Et ça définit aussi le temps qui va être donné à chaque groupe politique. Alors, un mois, on a des calendriers, parce que je trouve que les images, ça marche mieux. Alors, le calendrier des séances, on a les semaines sénatoriales et les semaines gouvernementales. Il y a 4 semaines dans le mois, 2 semaines pour le gouvernement, 2 semaines pour les sénateurs. Et dans les semaines qui sont donc sénatoriales, on a le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dans les semaines gouvernementales, c'est l'ordre du jour législatif. Si un projet de loi vient, si c'est un projet de loi, il vient donc du gouvernement, c'est la semaine gouvernementale. Si c'est une proposition de loi, on passera dans la semaine sénatoriale. Bon, ça, je vous le dis, franchement, c'est de la cuisine, c'est pas très, très, très sympa. Moi, je pense que le plus rigolo, c'est de vous parler de la fabrique de la loi. Comment une loi se fabrique? Alors, le projet de loi, il vient du gouvernement. La proposition de loi, Eh bien, des parlementaires, sénateurs ou députés. Alors, on se dit, on va parler du gouvernement, parce qu'il y a plus de textes de loi qui viennent du gouvernement, qui sont donc des projets de loi, des propositions de loi. Dans un ministère, non, on se dit, il faut faire une loi sur tel ou tel sujet. Donc il y a plein de gens qui vont travailler, plein de cabinets dans les différents ministères qui vont travailler à ce texte de loi. Une fois que ce texte de loi va être écrit, ça va s'appeler un avant-projet. Ce serait trop facile d'aller directement au projet de loi. Cet avant-projet de loi, il va arriver chez le Premier ministre. On dit le PM entre nous. Donc le PM va lire, va travailler autour de cet avant-projet de loi et il va donner son accord pour se dire « Ah oui, c'est une bonne idée de faire une loi sur ce sujet-là ». Il va donner son accord et on peut se dire que la loi, elle va passer du pluriel au singulier. Parce qu'il y a plein de gens, plein de ministères différents qui auront travaillé et ensuite ça vient à Matignon. C'est Matignon qui donne son accord pour un avant-projet de loi. Ça devient ensuite le rôle du Conseil d'État de savoir si cet avant-projet de loi a toutes les raisons d'être, s'il n'y a pas déjà une loi contradictoire qui existe. Et puis de voir si, je dirais, la sémantique, si c'est écrit convenablement, si c'est vraiment écrit comme pour devenir une loi. Alors, c'est un petit clin d'œil à Simone. Simone aime bien les couleurs, forcément, c'est son métier. Alors, le Premier ministre, quand ça sort de chez le Premier ministre de Matignon, l'avant-projet de loi, il est écrit sur du papier rose. On dit que c'est rosi par Matignon. Ça va arriver au Conseil d'État. Le Conseil d'État, il va touiller ça dans sa grosse machine pour que ce soit bien écrit comme il veut, parce que le Conseil d'État, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Le Conseil d'État, il ne va pas vous donner un jugement. Il ne va pas dire « Ah, peut-être, en même temps, si ça se trouve ». Le Conseil d'État, c'est tranché, c'est « oui, ça peut être écrit comme ça » ou « non, ça ne peut pas être écrit comme ça ». Il n'y a pas de milieu. Par contre, les choses se disent de façon extrêmement feutrée. Hein. C'est comme au Sénat. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne va pas dire « Oh là là, quel idiot celui-là », on va dire « Je me pose des questions sur le bien fondé de telle ou telle rédaction ». Vous voyez, les choses se disent, mais très très joliment. Donc le Conseil d'État va rendre son avis sur un papier vert. Comme ça, on voit la couleur du papier, on sait d'où ça vient. Et une fois que le Conseil d'État a donné son avis, eh bien là, ça va passer au Conseil des ministres. Parce qu'il y a eu l'imprimatur du Conseil d'État, ça passe au Conseil des ministres, et l'avant-projet, après passage au Conseil des ministres, va être écrit sur un papier bleu, il est donc bleui, et ça va, c'est joli, c'est des termes très poétiques, on dit que c'est rimé avec Matignon, c'est un papier bleu, il y a l'imprimatur cette fois du Conseil des ministres, et nous avons un projet de loi. Donc on est passé de l'ombre à la lumière. Parce que dans l'ombre, vous avez les papiers roses, les papiers verts, les papiers bleus. On a une écriture et la lumière, ça arrive au Parlement. Le projet de loi va arriver. Alors, si ça concerne le PLFSS ou la loi de finances, ça passe systématiquement d'abord à l'Assemblée nationale. Si ça concerne les collectivités territoriales, la première chambre qui est saisie, c'est le Sénat. C'est toujours dans cet ordre-là. C'est vrai que très fréquemment, c'est l'Assemblée nationale. Tout ce qui concerne la collectivité territoriale passe dans ce qu'on appelle la chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. L'Assemblée nationale étant la chambre basse. Bon, pas trop pourquoi ces dénominations. Vous avez une idée, François, pourquoi haut et bas? Non? Ah, ouais. Ah ben alors la nuit des privilèges, l'abolition des privilèges, non, ça n'a pas tout enlevé. Bon, alors voilà, la chambre haute, la chambre basse. Alors, une fois que ça arrive, on va prendre notre projet de loi, il arrive, bon, il arrive, mais là on va dire qu'il arrive au Sénat, le projet de loi arrive au Sénat. Alors, il va être lu et on va choisir une commission qui va être ce qu'on appelle saisie au fond. Donc cette commission, elle va récupérer le texte et pour que le texte soit travaillé, le président de la commission va nommer un rapporteur. Et c'est le rapporteur de ce texte qui va le déshabiller, l'examiner, le travailler, qui va connaître le texte par cœur. Et le rapporteur, il travaille non pas en son nom propre, jamais. Le rapporteur, il travaille au nom de toute la commission. Alors, dans la commission, il y a une représentativité des différents partis politiques. Mais le rapporteur, il travaille pour tout le monde. Il travaille pas ni pour son groupe, ni pour lui-même, il travaille pour toute la commission. Donc avec un administrateur, il va éplucher très attentivement ce projet de loi, lui-même va proposer des amendements, et ensuite, d'autres amendements peuvent être proposés par une commission qui sera saisie pour avis. Par exemple, la commission des affaires sociales, qui peut donner son avis, et qui va elle aussi proposer des amendements. Les amendements, ils peuvent arriver donc pendant la lecture en commission, mais ils peuvent arriver aussi quand le texte va passer dans l'hémicycle. Il est d'abord voté, par exemple pour un texte de la commission des lois, il va être voté en commission des lois, le rapporteur va présenter son sujet, va proposer ses amendements, le texte est voté dans la commission et ensuite il arrive en séance. Là, il est de nouveau examiné, le rapporteur se met donc dans le bas de l'hémicycle et la loi ne peut être étudiée qu'en présence du ministre. Donc la séance est ouverte. On attend que le ministre arrive. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Le rapporteur est là avec son président de commission. Le ministre monte au plateau. Il explique, puisque c'était un projet de loi, il explique pourquoi il voulait cette loi. Le rapporteur ensuite prend sa place, réexplique la même chose, avec des mots un peu différents. Et ensuite, on examine la loi article par article. À chaque fois qu'un amendement est déposé, il peut être défendu, défendu par l'auteur de l'amendement. Si ce n'est pas l'auteur, c'est ceux qui ont co-signé. On a des amendements qui arrivent tout le temps. François et Frédéric font le tri en permanence. On co-signe ou on ne co-signe pas. Et la personne qui siège dans l'hémicycle va défendre cet amendement. Il défend, on met au vote et ensuite il y a une explication de vote. Et on passe comme ça, article par article, toute la loi. Alors il y a des monstres législatifs. Il y a certaines lois où il y avait 1100 amendements. Donc ça prend des heures et des heures et des heures. Et à la fin, donc on vote article par article. Et à la fin, on vote le texte de loi. Donc on vote... Quand c'est une loi très, très grosse, par exemple, comme a été la loi travail ou la loi santé, on vote ça en scrutin solennel dans la salle des conférences, avec des bulletins qui sont aussi à notre nom. Ce ne sont pas ceux-là, parce que là, c'est les votes en hémicycle où ils sont pesés, mais dans la salle des conférences, on vote avec des bulletins à notre nom. Voilà, donc le projet de loi, il a fait le Sénat, mais là, j'ai considéré qu'il y avait que le Sénat. Et que le Sénat était seul au monde. Il manque quelque chose dans ma démonstration. Parce que le Sénat, il vote la loi. Oh, on est content, on a voté un truc super bien qui, à notre mesure, on se dit, on avait fait chose bien. Ah ben oui, mais non. Mais il va repartir à l'Assemblée nationale pour être examiné. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Alors, le problème du gouvernement, qui a été le problème de la législature précédente, c'est qu'ils nous ont passé énormément de projets de loi en procédure accélérée. Ça veut dire qu'il y a une seule lecture. Donc en procédure accélérée, le Sénat a lu, a fabriqué son texte, il a corrigé celui du gouvernement, il a ajouté plein de choses formidables. Il part comme ça à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va dire non, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Ils vont en enlever beaucoup. Donc les deux textes ne vont pas être conformes. Comme ils ne sont pas conformes et qu'on est en procédure accélérée, il va y avoir la réunion d'une CMP, commission mixte paritaire, avec 7 sénateurs et 7 députés qui vont essayer de s'entendre pour sortir de cette CMP un texte commun, parce que l'idée, c'est que le texte il soit applicable à tous les Français tout de suite. Hein. La loi, c'est pour tous les Français. Elle est faite par des hommes, pour des hommes et pour tous les Français. Donc si la CMP est conclusive, c'est-à-dire si tout le monde est d'accord, eh bien la loi, à ce moment-là, est votée et promulguée. Mais là où ça se complique, c'est quand la CMP, ça ne marche pas, donc vas-y, on repart en lecture, et c'est là où c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors je pense que vous avez dans mon dos le schéma, voilà, le schéma, première lecture, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, deuxième lecture, rebelote Sénat, Assemblée nationale, avec à chaque fois on repasse en séance plénière. La CMP, quand on est en procédure accélérée, hein, c'est le schéma du haut, la flèche du haut, et ensuite promulgation de la loi. Est-ce, ça va, vous avez à peu près suivi. Ça s'appelle la navette parlementaire. Mais c'est un enrichissement des textes. Alors, quand on est en deuxième lecture, par la procédure de l'entonnoir, on ne peut pas proposer en deuxième lecture des amendements qui ont été refusés en première lecture, quand on n'est pas en procédure accélérée. Parce que sinon, on ne s'arrêterait jamais. Donc, à un moment, dans les amendements, il faut s'arrêter. Donc, par cette procédure-là, ça permet de, quelque part, canaliser aussi un petit peu les velléités et les ardeurs des sénateurs ou des députés qui ont toujours envie de rajouter tout un tas de choses. Alors, ça va ? Personne ne dort ? Ça va un peu ? Je ne suis pas sûre que vous appreniez grand-chose. Si, parce que comme maintenant, à notre ère de de médiatisation et de communication, c'est pas comme on disait, la Constitution doit être obscure. Non, là, il faut que tout le monde sache comment la loi se fabrique. Alors, il faut que je vous parle du Conseil constitutionnel. Entre nous, on appelle ça le cons-cons. Le cons-cons, c'est un machin vachement important, parce que, déjà, il y a cette nouveauté de la question de constitutionnalité. Quand une loi est fabriquée, il faut être bien sûr qu'elle soit raccord avec la Constitution. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui va se prononcer. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour tout un tas de lois qui vont être promulguées. Alors, il peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. On fait une saisine du Conseil constitutionnel parce qu'on se rend compte que la loi qu'on a votée, travaillée, elle ne nous plaît pas. Mais ça peut être aussi des citoyens qui vont saisir le Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel a vraiment un rôle extrêmement important. Et une fois qu'il aura rendu son avis, ensuite la loi peut être promulguée. Alors, le Conseil constitutionnel, il est saisi aussi en cas de questions préalables, si jamais vous entendez parler de ça. Et ensuite, journal officiel, pof, ça y est, la loi peut s'appliquer. Donc ça, le sénateur, dans ce rôle-là, plus à Paris, il fabrique la loi. Alors, quand il contrôle l'action du gouvernement, c'est par l'intermédiaire soit de questions écrites, on écrit au ministre, soit on lui pose une question orale. Alors ça, c'est le mardi matin, on pose des questions orales sur des thèmes précis, mais de la même façon, par des gens qui vont nous saisir, ou des associations, ou des professionnels. Donc on pose une question orale au ministre qui nous répond. Ça, c'est le mardi matin. Et puis, les questions au gouvernement, ça c'est un peu médiatisé, c'est une fois par semaine, soit le mardi, soit le jeudi, où là, il y a entre 10 et 12 questions qui sont posées, avec un temps de 2 minutes par question. Donc il faut bien réfléchir à la poser en une minute pour avoir ce qu'on appelle le droit de réplique, c'est-à-dire... C'est un peu vexant, mais c'est le sénateur qui a le dernier mot par rapport au ministre, puisque le ministre, il répond, puis ensuite on peut lui dire quelque chose. Donc moi, ma dernière... qu'est-ce que j'ai posé récemment? Ah ben si, bien évidemment, sur l'angioplastie. J'ai posé lors du débat une question à Agnès Buzyn, donc une question qui n'était pas une question au gouvernement, mais qui était une question orale. Et puis sinon, j'avais saisi le ministre de l'Agriculture quand il y avait eu le gel des vignobles. J'avais saisi les universités pour l'histoire de la sélection en master. Alors les questions écrites, on en fait pas mal, parce que les questions écrites, c'est vraiment une voie, je dirais, dématérialisée. Donc ça va plus vite que les questions orales. Et puis j'en pose une la semaine prochaine, question orale, François, mardi prochain. Ah oui, l'exploitation des biens culturels. On a mis le doigt sur un loup, sur une histoire de valeur de choses qui ne peuvent pas être exportées convenablement. Donc ça, je la reviserai, ce n'est pas demain matin. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour ma question mardi de la semaine prochaine. Bon, tout le monde a compris comment on fait une loi. Ce n'est pas si compliqué. Ouais, on en fait tout un pataquès. Enfin, franchement, bon, ça devient compliqué parce que les choses, elles pourraient être simples, mais... Oh, les juristes, Bon, enfin, je ne dirai rien. La presse est partie, alors je peux dire des choses, mais quand même. Alors, je vois que j'ai une petite note, là. Il faut que je vous parle. Donc, on a vu le contrôle des politiques publiques, quand on fait des auditions. Les sénateurs, ils mènent des missions. Parce que ce sont des gens qui vivent, qui ont des métiers. Donc, moi, j'ai fait partie d'une mission concernant... l'amélioration qu'on pouvait apporter sur la prise en charge des mineurs en psychiatrie, parce qu'on s'est rendu compte que par rapport à d'autres pays comme la Belgique, la France était très en retard. Et là, le président de la commission des lois du Sénat m'a donné un gros travail. Il m'a nommé. Ensuite, on est élu. La commission des lois a fait un vote, mais il me proposait d'abord. Donc, je vais travailler sur les agressions sexuelles des mineurs qu'on va élargir aux différentes infractions sexuelles. Donc, je vous ai dit que les sénateurs n'étaient pas là pour faire des lois de pulsion, mais ils sont quand même là pour suivre et veiller à ce que la justice, qui est le troisième pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, la justice, elle est là pour la paix sociale. Il faut bien savoir que quand il y a un jugement de rendu, ça ne va pas forcément satisfaire la victime. La justice, elle n'est pas forcément là pour ça. Et c'est difficile à se faire rentrer ça dans la tête. que l'insatisfaction de la victime elle peut être accentuée par le verdict, mais l'histoire de la réparation elle ne sera jamais à la hauteur du traumatisme subi par la victime. L'agresseur, il va avoir l'impression d'avoir remboursé sa dette, mais la victime, elle sera toujours blessée. Donc le juriste, il va dire, il a payé sa dette, il a fait telle peine, mais la victime ou le médecin, il sait bien que quand vous avez une plaie, il y a une cicatrice, et la cicatrice, elle est toujours là, ça ne peut pas s'enlever. Donc la réflexion qui m'est demandée, là, de mener actuellement, c'est dans l'air du temps, parce que ça a choqué beaucoup de gens. C'est les agressions sexuelles des mineurs de moins de 15 ans qui sont requalifiées. Une atteinte sexuelle, c'est un comportement qui n'est ni une agression sexuelle ni un viol. Donc les atteintes sexuelles des mineurs qui sont correctionnalisées, c'est-à-dire qui ne passent pas en cour d'assises. Donc ça a énormément choqué parce que sur un mineur, c'est un crime, le viol. Donc c'est passible de la cour d'assises. Mais si on correctionnalise, on peut se dire que le temps de la justice sera beaucoup plus rapide puisque la victime va comparaître tout de suite, son agresseur aussi, qu'on évite, entre guillemets, un procès en assises qui est très lourd, qui dure 3 jours, où il y a des jurés populaires qui vont demander à réentendre les choses, alors qu'en correctionnel, quand c'est un tribunal correctionnel, vous pouvez passer uniquement l'enregistrement de la victime. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire penser que quand on correctionnalise, il y aura une peine importante, mais surtout ce sera tout de suite. Alors qu'en assise, le temps de l'instruction va prendre 2-3 ans. Ça va prendre du temps, que la vie va passer et puis qu'on va aller rechercher quelqu'un qui a été, bien évidemment, qui s'est comporté comme un criminel, mais on va aller le rechercher. Et ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc, il y a ce sujet-là de la correctionnalisation et là, il y a l'épineux sujet de la prescription. Le temps de prescription qui, depuis assez récemment, part à partir de la majorité. Ce qui permet déjà, quand la victime a été abusée à 7 ans, on part à 18 ans, donc on a déjà eu 11 ans. Enfin, déjà, vous comprenez quand je dis 11 ans, hein, c'est pas du jugement, bien sûr, c'est terrifiant. Mais on part de 18 ans et on arrive à 38. Ce qui fait entre les 7 ans et les 38 ans, ça fait déjà 31 ans. Au bout de 31 ans, c'est très compliqué d'obtenir des preuves, très compliqué de monter un procès, parce que ben, les gens, les Français bougent beaucoup. Donc la plainte est déposée à tel endroit, la victime est à tel autre, l'agresseur... C'est des contingences matérielles qu'il faut prendre en compte. Ça devient très compliqué au bout de 20 ans. Donc on se dit 30 ans, ce sera encore plus compliqué. Mais il y a un élément qui me semble à moi peut-être encore plus important, c'est que l'insatisfaction de la victime va augmenter d'autant plus parce qu'on va aboutir à un non-lieu comme on n'aura pas de preuves. On aboutit à un non-lieu et ça ne veut pas dire qu'elle a été victime, mais ça veut dire que la société ne punit pas son agresseur. Donc dans la tête, pour se reconstruire, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas encore pire d'aboutir à un non-lieu ou de juger en cour d'assises des mineurs quelqu'un qui va par exemple avoir 55 ans, les parents vont être là, 85 et 87 ans. Donc peut-être que c'est plutôt autour de ça qu'il faudrait travailler parce que ça devient un non-sens. Et qu'en voulant travailler pour protéger et pour punir davantage, on risque finalement, de façon paradoxale, d'obtenir quelque chose qui soit à l'encontre de ce qu'on voulait. Mais ça, je livre ça à votre réflexion aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc ça, c'est mon travail actuellement, d'auditionner des procureurs, des associations, des victimes. Et pour travailler autour de ça, qu'est-ce qu'on fait sur la prescription? Qu'est-ce qu'on fait sur les peines? Et dans quelle mesure, finalement, on travaille pour la paix sociale? Et puis pour que notre pays, eh bien, il y a le gouvernement des gens, l'administration des choses, mais surtout qu'on aboutisse à une loi qui soit correcte. Et est-il nécessaire d'en refaire encore une? Parce que l'arsenal juridique, il est déjà là. Il y a déjà dans le code pénal tout un tas de choses. Donc ce n'est pas forcé de rajouter encore des lois autour de ce thème. Donc actuellement, je travaille là-dessus. C'est ma deuxième mission après la mission psychiatrique. Donc vous voyez qu'on me donne quand même des sujets de travail qui sont plus en lien avec mon métier. je suis un peu plus à l'aise que de parler sur certains thèmes comme l'évasion fiscale ou des choses comme ça. Ça, non, ça c'est pas trop mon domaine. Donc là, ça c'est mon travail. Alors j'avais vu que sur le, donc ça, ben, ça je vous l'ai dit. Donc il y a des délégations. Moi, je suis vice-présidente de la délégation à la prospective, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur des thèmes qui vont être très transversaux. La ville de demain, la pauvreté chez les adolescents. C'est un travail qu'on fait en auditionnant des gens et en essayant d'avoir des auditions contradictoires. En particulier en économie. Ça, c'est aussi une autre facette de notre travail. Alors, j'avais en point numéro 3, j'ai regardé l'heure parce que je ne veux pas vous endormir, vous fatiguer. Ah oui, il est déjà 7h10. Alors, comment le sénateur est élu? Donc, je vous en ai un petit peu parlé, par moitié, tous les 6 ans. Les grands électeurs. C'est les grands électeurs qui votent pour les sénateurs, alors que pour les députés, c'est le peuple. Là, c'est les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, les conseillers régionaux, départementaux, les députés, enfin les grands élus, puisque nous représentons les collectivités territoriales. Le Sénat, on dit que c'est l'assemblée du seigle et de la châtaigne. Le Sénat, c'est la géographie de la France. L'Assemblée nationale, c'est la démographie. Pour vous donner un peu des repères, un peu, je dirais, simplistes, mais que vous sentiez bien la différence des deux chambres. C'est vraiment très, très complémentaire. On représente pas les mêmes choses, on n'a pas la même vision des choses. Nous, on travaille pour des collectivités territoriales, avec notre histoire aussi d'élu local. Donc, vous avez entendu parler de la loi sur le non-cumul des mandats, puisque j'ai vraiment réfléchi et puis je me suis dit, ben, il faut choisir un mandat. Donc j'ai choisi le Sénat parce que je suis plus jeune sénateur que maire et puis qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi d'apporter une nouvelle, un peu plus d'oxygène, apporter des choses différentes. Bon, là, ça va, j'ai presque 17 ans de maire d'élu local derrière moi, donc je me suis construite avec ça. Mais d'ici 10 ans, peut-être qu'il y aura des sénateurs qui n'auront jamais, jamais géré une mairie. Et c'est quoi gérer une mairie? C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est s'occuper des grands projets, c'est refaire une salle des fêtes, mais c'est mettre aussi des ralentisseurs, c'est se faire disputer parce qu'il y a des crottes de chiens sur le trottoir, c'est être appelé parce qu'il y a un suicide, c'est être appelé parce qu'il y a une suspicion de maltraitance dans la maison de retraite, c'est être appelé parce qu'il y a une audition pour un mariage mixte et il faut écouter ce qui se dit, c'est gérer les conflits de voisinage, c'est s'occuper de l'eau, c'est envoyer à la com d'agglo quand c'est pas de la compétence, etc., etc. Et quand on n'a pas travaillé ça, j'ai presque envie de vous dire, avec les tripes pendant tant d'années, on ne peut pas avoir la même réaction quand on ne l'a jamais fait. C'est comme vous, tous les métiers que vous exercez, c'est comme un prof qui donnerait ses cours en les lisant, mais n'ayant jamais affaire aux élèves. Je pense qu'il lui manquerait une dimension. Eh bien, je pense que vraiment, élire un sénateur qui va représenter une collectivité territoriale, quand on n'aura jamais géré une collectivité territoriale, Pour moi, il y a un trou dans la raquette. On se dit toujours, il faut exercer le métier de l'autre pour le comprendre. Vous savez, moi, avec des patients, quelquefois, il y en a qui me disent, oh, ben, celui-là, hein, ce feignant, là, il est dans son taxi toute sa journée, c'est pas fatigant. Ben, la pathologie des chauffeurs de taxi, la pathologie des joueurs de clarinette, hein, des arthroses de pouce, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, mais on ne l'appréhende que quand on l'a exercé. Sinon, on peut toujours s'imaginer, oh, ben, la Banque de France, il fiche rien, à partir de 15 heures, c'est fermé. Ah ben oui, mais à partir de 15 heures, ça travaille derrière, etc., etc. Les instits, ben oui, mais il faut qu'ils corrigent les copies derrière, qu'ils préparent leurs cours, enfin bon, étudie quanti, je peux continuer des exemples comme ça, et vous-même, vous pouvez continuer l'énumération dans vos têtes, parce qu'on ne connaît les choses vraiment bien que quand on les a exercées. Autrement dit, une chose lue 99 fois ne vaut pas une chose vécue une fois. Ça remet bien les pendules à l'heure, tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait le à part casser le matériel, il fait quoi le sénateur dans la semaine? Il me semble qu'il y avait un... François, il y avait un truc... Ah oui, alors ça, je vous l'ai dit. Bon, tout ça, on l'a vu aussi. C'est vrai que j'ai pas suivi le plan un peu comme à l'école, hein, mais bon, c'est un peu plus... Donc ça, on a vu les questions... Oui, le colloque des femmes, les agricultrices, quand on les réunit, tout un tas de professions différentes... La semaine type du sénateur. Ah ben ça va vous intéresser de savoir ce que je fais. Alors, ben le lundi matin, je travaille. Donc je déborde un peu, c'est-à-dire j'exerce mon métier parce qu'on n'est pas très nombreux encore à exercer un métier au Sénat. Au Sénat, la moyenne d'âge, elle n'est pas vieille, hein, elle est de 61 ans et 9 mois, avec 32% de femmes avec le renouvellement et la loi sur le non-cumul des mandats. Parce que comme les femmes étaient numéro 2, les numéro 1 étant partis, c'est des femmes qui montent, hein, c'est mathématique. Donc moi, j'exerce donc ma profession le lundi, le jeudi, une semaine sur deux, parce que quand on a les questions de gouvernement, je reste à Paris le jeudi, et le vendredi. Jusqu'à présent, je consacrais mon lundi après-midi à l'agglo, à la communauté d'agglomération, sachant que j'allais à la mairie le matin, à 8h30, 9h, que je revenais consulter, que le midi, j'allais à la mairie, l'après-midi à l'agglo. Alors, je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis, parce que c'est avec Jean-Louis que j'ai travaillé dans le service d'appui aux communes, mais on travaillait beaucoup par téléphone. Jean-Louis, c'était super pratique. Et puis, souvent, je consultais aussi le jeudi soir. Donc, je pars à Paris le mardi, le mercredi, un jeudi sur deux. Mais le lundi après-midi ou le vendredi après-midi, comme je consulte le matin, je reçois des gens où je participe à l'Assemblée Générale. Alors ce matin, je n'ai pas consulté parce qu'il y avait l'Assemblée Générale du syndicat de la propriété privée, donc, auquel j'ai assisté. Cet après-midi, au bureau parlementaire, j'ai reçu les exploitants agricoles en retraite, parce que c'est vraiment une profession qui est sinistrée, qui a les femmes agricultrices retraitées, qui ont des retraites exorbitantes de 520 euros par mois, les hommes ayant 870, enfin là, vraiment, il y a un travail énorme à faire. Et puis, je suis venue vous voir, mais à 2h, j'étais à la mairie. J'étais en réunion à la mairie. On va beaucoup dans les communes. Alors, on avait un truc qui était génial, c'était bien, et ça a été mal compris, c'était la réserve parlementaire. Alors, la réserve parlementaire, c'était une somme qui était attribuée par le ministère de l'Intérieur à chaque sénateur. Mais une somme qu'on ne voyait pas, c'était un chiffre, cette somme. Les maires nous écrivaient en disant, j'ai un projet, je voudrais refaire ma salle polyvalente, je voudrais refaire le toit de l'église. Bon. Alors, ils nous demandaient des sous, mais c'était pas seulement l'argent, c'était l'intérêt qu'on portait à leur dossier. Et moi, je me souviens, être allée voir un maire, là, dans le Morvan, comme il y a 2 heures de bagnole pour arriver jusqu'au fin fond du Morvan. Et il était tellement content en me disant, si vous avez compris ce que je veux faire, je vais dire à mon conseil municipal, le sénateur est venu, elle a trouvé que c'était une bonne idée, ça va m'aider à porter mon projet. Alors, évidemment, la somme allouée, c'était l'épaisseur du trait, mais c'était symbolique de dire qu'il y avait un adoubement qui n'était pas celui de l'État. Parce que si vous donnez cette somme à distribuer au préfet, ça devient une subvention de plus. Et vous n'avez plus ce lien d'élu à élu. Vous savez, les maires, je leur dis, je sais trop ce que c'est que d'avoir du mal à boucler un budget. Donc je vais vous donner 5 000 euros sur ce budget, sur cette réfection de toit d'église qui vous coûte 45 000. Mais c'est surtout, mon projet, il vaut quelque chose, il est structurant pour la commune et je vais pouvoir bien expliquer à mon conseil et à ma population que j'ai de la réserve parlementaire parce que ce que je fais pour la commune, c'est bien, que dans mon projet, ça tient la route. Donc la réserve parlementaire, c'était ça. Et les sénateurs, notre réserve, elle était publique, bien évidemment. On expliquait à chaque fois ce qu'on voulait faire. Le dossier était instruit par les collaborateurs. Et c'est le ministère qui attribuait l'argent. Nous, on ne voyait jamais l'argent, évidemment. C'est le ministère qui attribuait, sachant que nous, on ne donnait toujours qu'aux collectivités territoriales, pas aux associations. Parce qu'il y a des soucis où certains parlementaires, en particulier plutôt les députés, allouaient telle et telle somme pour telle et telle association dont ils étaient plus ou moins... pour eux, c'était quelque chose d'important. Mais... C'est un peu dommage parce que ça a cassé un lien. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément besoin. Vous allez me dire, ça ne vous empêche pas d'aller trotter dans les communes. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, puis d'aller expliquer, comme je fais là, ce que c'est qu'un sénateur et à quoi ça sert et comment ça défend les collectivités. Mais c'est un petit truc en moins que nous avons pour parler avec nos collègues. C'était nos collègues élus et nos collègues maires. Donc, la réserve parlementaire... Bon, les députés étaient très très partagés là-dessus, mais les députés, ils ont été élus dans une vague et ça faisait partie d'un programme, donc ils ont voté pour la suppression, tout en se disant il faut qu'on invente autre chose, donc ils vont inventer une espèce espèce de somme qui va être allouée à des projets innovants, mais qui sera distribuée par les préfets. C'est plus pareil, quoi. Parce que quelque part, c'est recentralisé, parce que le préfet, c'est notre autorité de tutelle, hein. Le préfet, c'est l'État. Donc c'est l'État qui, de nouveau, va prendre la main sur quelque chose. Or, de temps en temps, c'est bien de laisser aussi les élus travailler. Les élus, ils ont un mandat. Nos juges, c'est nos électeurs. Un maire qui n'est pas bon, il se représente, il est viré, hein. C'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui est élu, eh bien, il a la confiance de ses électeurs et c'est à lui de la développer et de travailler pour la garder. Donc ça, ça nous oblige énormément. Donc c'est vrai que cette réserve parlementaire, ça nous permettait un lien avec nos collègues. Donc je vous ai un peu parlé de la loi sur le non-cumul des mandats. Donc moi, je suis fière de rester conseillère municipale parce que eh bien, mes électeurs m'avaient fait confiance en 2014. Je ne savais pas en 2014 qu'on me demanderait d'être sur la liste des sénatoriales. Donc je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas prévoir, mais quand on nous oblige à partir comme ça, c'est une petite sensation aigre de se dire on a un peu trompé les gens, même si malheureusement c'est quelque chose qui est imposé. Donc on peut beaucoup parler du cumul des mandats, mais là encore il y a eu des choses qui ont été véhiculées, qui étaient fausses. On a beaucoup pensé en fait cumul des mandats égale cumul d'indemnités. Or les parlementaires on est écrêtés, c'est-à-dire qu'on ne touche rien pour ce qu'on fait en plus, hein, donc c'était pas le sujet. Et puis il y a d'autres mandats qui sont cumulatifs. Hein. Vous pouvez gérer une grande ville, être conseiller régional, ou gérer une aglo, être conseiller départemental, présider un syndicat, siéger à des conseils d'administration, toucher parce que vous êtes à une société d'économie mixte, etc. Donc il y a une espèce de très médiatisé, d'anti-parlementariste qui a dit, allez hop, on flèche les parlementaires, ces horribles personnes qui fichent pas grand-chose, qui se planquent sous les ordres de la République. C'est quand même pas tout à fait ça. Heureusement. Et puis ça n'aurait pas perduré comme ça. Si même le général de Gaulle s'était cassé la figure en voulant changer quelque chose, c'est qu'il devait y avoir quand même une raison profonde au fait que le bicamérisme, c'est plus un apport qu'une contrainte et puis qu'un frein. C'est quelque chose qui apporte une hauteur différente. Ça coûte un peu d'argent. Le Sénat coûte 5 euros par an et par contribuable. Donc c'est pas non plus... c'est 5 euros. Avec ces 5 euros-là, on fait rien d'autre. Mais voilà, il faut quelquefois replacer les choses, recontextualiser pour comprendre. Quand à Châtenois, j'ai expliqué que le non-cumul eh bien, m'obligeait... Ah ben oui, mais non, mais pas pour vous. J'ai dit, ben si. En fait, c'est ça. On trouve que telle politique ou telle autre, c'est une horrible personne. Oh ben oui, mais pas vous, Marie, hein, on vous connaît. Mais ça, des Maries, il y en a partout en France. C'est le syndrome de la brucellose. Hein. Vous avez une bête qui est malade, alors on abat le troupeau. Bon, quelquefois, il faut réfléchir un petit peu, et puis peut-être faire un petit peu moins de lois de pulsion et puis de lois de contexte. Voilà. Alors, François, j'ai pas suivi le plan du tout. L'application des lois. Ah, l'obstruction parlementaire. Ah ben oui, non mais on peut être très vilain, les parlementaires. Donc quand on en a marre, on peut faire ce qu'on appelle un dépôt pléthorique d'amendements, comme il y a eu donc, pour la loi santé, des amendements. Donc vous bloquez le processus parce qu'il n'y a plus le temps de les examiner. Et puis, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la question préalable, c'est-à-dire avant d'examiner un texte, on pose la question préalable, c'est-à-dire on se dit il n'est pas examinable. Voilà. Alors ensuite, il y a la révision constitutionnelle. Donc si le président de la République veut réviser la Constitution, il peut le faire donc avec le Parlement réuni en congrès à Versailles. Donc nous sommes allés deux fois à Versailles. Malheureusement, c'est un triste anniversaire puisqu'aujourd'hui c'est le Bataclan et il y a eu la réunion du Parlement à Versailles suite à cette tuerie effroyable puisque le président avait proposé, mais c'est pareil là. En se laissant gagner par l'émotion, il avait eu l'idée de destituer de la nationalité française. Mais il faut bien se dire, quand on gère une commune ou quand on fabrique des lois, que, et là je pèse mes mots, l'émotion n'est pas un cap. On ne peut pas se laisser guider par l'émotion. C'est abominable, on est évidemment tous d'accord, mais ce n'est pas l'émotion qui doit guider notre action. C'est pour ça que la révision constitutionnelle avec la déchéance de nationalité, ça a soulevé d'énormes problèmes, surtout celui de fabriquer des apatrides, ce qui ne peut pas se faire dans notre pays avec nos, avec nos lois, avec nos règles. Donc il y a eu cette réunion donc avec le président Hollande et la réunion le 3 juillet avec le président Macron où il a fait la déclaration de politique générale de son mandat et de ce qu'il veut faire. Donc soit il réunit le Congrès pour la révision constitutionnelle, mais il faut la majorité des 3/5, majorité que sur le papier il n'a pas trop, hein, parce qu'ils savent bien compter les voix, puisque le Sénat a eu une élection qui a été là en septembre plutôt bénéfique à un parti différent de celui d'En Marche, puisqu'il n'y a pas eu de sénateur En Marche. Il y a un groupe de 10 sénateurs qui s'appelle les territoires indépendants, mais qui n'est pas étiqueté en Marche au Sénat et qui devait gonfler un petit peu. Et il y a juste les sénateurs En Marche de François Patriat. C'est pour ça que je disais qu'il y a énormément de groupes au Sénat. On dit un chien n'y retrouverait pas ses petits en ce moment. C'est un peu compliqué. Hein. Donc, voilà. Donc la révision constitutionnelle peut se faire par référendum, mais après avoir consulté l'Assemblée nationale et le Sénat, de toute façon, et révision constitutionnelle en réunissant tous les parlementaires à Versailles. C'est très impressionnant quand on est tous les parlementaires à Versailles, parce que on est plus de 900. On arrive avec une sorte de cortège, et vous vous sentez là encore un peu écrasé d'un certain poids de responsabilité, parce qu'on est tous là, dans cet amphithéâtre historique, et oui, on peut se dire qu'on a une lourde responsabilité. Enfin, moi, je le vivais comme ça, avec l'obsession d'être digne de la fonction qu'on exerce. Faut être digne. Faut pouvoir se dire dans la glace, ben, ce que j'ai fait, je le referai. Au moment où je l'ai fait, j'avais raison de le faire. Parce que peut-être l'histoire peut démontrer qu'après on s'est trompé, mais bien se dire que quand on a choisi une voie, comme on faisait à la mairie, là je salue tous les élus de Châtenois qui sont là ce soir, je disais toujours, laissez-moi le temps de changer d'avis, n'est-ce pas Yves ? Laissez-moi le temps de changer d'avis, non pas parce que je suis une femme et plutôt blonde, et que je suis une écervelée, mais justement pour se dire, l'imprévisible conséquence, est-ce que je ne peux pas quelquefois la tenir ? Et donc, je vais prendre cette décision, qu'est-ce que ça va impliquer ? Et c'était ça l'obsession. L'obsession de se dire, est-ce que je choisis le bon chemin pour ma commune ? Donc là, est-ce que c'est le bon chemin pour la loi ? Donc se laisser le temps de changer d'avis, et puis se dire qu'on fait de son mieux, mais au moment où on a fait ce choix, on se dit qu'on a raison de le faire, parce que tout simplement, on a essayé de réfléchir, et qu'au Sénat, c'est pas l'Assemblée de l'imagination, comme peut être l'Assemblée nationale, mais au Sénat, c'est vraiment la raison qui doit prévaloir à l'écriture de la loi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Merci Marie pour cet exposé. Ce témoignage, je le prends comme un témoignage humain. Oui. Hein, donc c'est quelque chose qu'on a toujours peu l'occasion de partager. Donc ça, c'était quand même sympa de faire passer ce message-là, au-delà de la technicité des procédures, des choses comme ça qui sont pas très sexy au niveau de l'exposé. Donc merci d'avoir respecté mon cahier des charges pour la partie historique, c'était parfait. Hein, voilà, parce que j'ai fait des demandes quand même. Il l'a dit, elle l'a dit aussi. Hein. Alors je vais poser la première question, mais après on va vous laisser poser les questions. Est-ce que tu peux rappeler ce que Macron souhaiterait faire passer comme révision constitutionnelle, les principes de ce qu'il souhaiterait faire ?
Attends, alors ça, je ne l'ai pas noté.
Tu n'as pas révisé ?
Non, ça, je n'ai pas révisé parce que je suis dans mon...
On va demander l'huile de ses marqueurs.
Enfin, si, on va travailler sur la diminution du nombre de parlementaires, mais je ne sais pas encore en quels termes. On a eu des projections, vous savez qu'en Saône-et-Loire, il y a 3 sénateurs, donc Jean-Paul Émorine et Jérôme Durin. Et moi-même, il y a 3 sénateurs. Donc il y a plusieurs scénarios qui font qu'on passera peut-être de 2 à 2 sénateurs ou même à 1 seul sénateur. Ben oui, mais pourquoi pas 0, quoi ? Je veux dire, au bout d'un moment, vous vous dites que... Donc c'est ça, ma révision constitutionnelle, ça va être la diminution du nombre de parlementaires. Et il va y avoir aussi la question du nombre de mandats successifs pour un parlementaire. Alors... je n'ai pas l'expérience de 3 mandats de suite de sénateur. Par contre, j'ai l'expérience du 3e mandat de maire. Quand vous êtes maire, le premier mandat, vous apprenez votre métier. Vous demandez. Et heureusement, on vient de la société civile. On n'est pas des techniciens. Un élu, il vient avec son passé, avec son métier. C'est pas un métier d'être maire. Donc pendant un mandat, on apprend les fonctionnements, on se dit, tiens, on apprend sa commune, qu'est-ce qui va bien aller. Le deuxième mandat, eh bien, écoutez, c'est les dossiers qui sortent. Hein. Pour chaque mois, ça a été l'étang Chaumont, la chapelle de Cruzy, le complexe sportif. C'est sorti au deuxième mandat. Et puis le troisième mandat, c'est un peu, on peaufine les choses, on va un petit peu plus loin, on est peut-être encore plus à l'écoute des besoins en plus. Et puis on gère de façon à ce que la population comprenne bien que les services dont elle bénéficie ont un coût. Et que quelquefois, avec le contexte budgétaire, eh bien, les services, on sera plutôt amené à les faire différemment. Enfin, le troisième mandat, c'est vraiment... On connaît bien les choses. On les connaît de mieux en mieux. Alors, trois mandats de parlementaire, c'est peut-être bien. Donc, ça va être ça, la réflexion, hein, dans la réflexion du président de la République. C'est la réduction du nombre de parlementaires et le nombre de mandats. Je sais qu'il y a ces deux choses-là qui sont vraiment en exergue tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses, François, dans cette... Non, c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit, mais ça, je n'avais pas révisé, donc c'est revenu. Mais c'est ça.
Non, mais c'est pour ça que je te pose la question.
Oui, mais ça finit par revenir, parce que quand on a appris à apprendre, ben, ça ressort aussi.
Non, mais c'est intéressant que tu le dises d'abord, parce que ça va venir dans la presse, si tu veux, dans les médias, dans les mois qui viennent. Donc c'est bien qu'on soit un petit peu préparé.
Alors, pour le Sénat, c'est un mandat de 9 ans. Et donc, ce qui se disait au Sénat, c'est que le sénateur, il est là pour fermer la benne à purée pendant 3 ans. Le sénateur, il fallait déjà qu'il apprenne pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il commence à pouvoir dire « hop, je suis là » et éventuellement commencer à poser des questions, voire présenter des amendements. Mais c'était un temps long, le temps du Sénat, le temps. Donc moi, je suis là que depuis 2 ans, j'ai déjà posé des questions orales, j'ai déjà été rapporteur d'une loi, là j'ai démission. C'est-à-dire, maintenant le Sénat, c'est aussi comme la société, ça va tout de plus en plus vite. Parce qu'on a un mandat de 6 ans aussi maintenant. C'est vrai que le quinquennat a bouleversé bien des choses, mais on a des mandats de 6 ans. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il faut 3 ans pour apprendre le métier, parce que vous n'aurez plus le temps. Or, je comprends bien ce que je vous ai un petit peu, entre guillemets, bazardé dans la fabrique de la loi. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais il m'a fallu du temps pour comprendre, du temps pour l'imprimer, pour en prendre vraiment conscience de ce que c'était que fabriquer une loi. Alors peut-être que je suis plus lente que quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment que ça se digère. C'est quelque chose, voilà, qui s'imprègne en vous. Vous le lisez, vous croyez avoir compris, mais il y a plein de choses qui vous auront pas marqué. Donc c'est, et puis aussi en pensant, parce que j'ai préparé ce que j'allais vous dire, c'est en repensant à tout ça que finalement ça m'a aussi de nouveau réappris des choses. Voilà.
Alors, c'est le moment au public de poser des questions. Oui.
Une proposition de loi est passée au Sénat, les commissions, les députés.
La navette.
Voilà, que le Conseil constitutionnel, au bout de quelques semaines ou quelques mois, dit non, stop, c'est pas possible.
Ben oui, ça peut arriver.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont censés.
Oui. Ben oui, il y a plein de gens qui sont censés.
Oui, il y a des gens qui ont proposé que le Conseil constitutionnel travaille avant. Vous avez dit non, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça.
Donc
non.
C'est le dernier garant.
C'est très rare que le Conseil constitutionnel retoque
non,
une.
C'est retoqué par article, hein, d'une façon.
Oui, c'est pas toute la loi. La loi. C'est quelques dispositions, tel ou tel article où il y a quelque chose qui n'a pas été parfaitement rédigé, compris. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des êtres humains et par définition imparfaits. Et il y a des administrateurs, et je vous ai expliqué que les sénateurs, on n'était pas des techniciens, je ne suis pas une juriste. Donc on propose quelque chose qui est réécrit, et le Conseil constitutionnel est là pour vérifier que ça va bien en musique parfaitement. C'est devenu tellement compliqué. Alors, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à des choses plus simples. On n'aurait pas besoin de tout ça. Hein. Bon, si tout le monde était moral, on n'aurait pas besoin de loi non plus.
Oui, les taxes sur les... Oui.
Ben oui.
Il y a eu un débat, alors d'après ce qu'on nous a dit, il y a eu un débat au sein du gouvernement sur la solidité juridique de cette loi. Et donc là, ben, les avis étaient partagés, ils ont été partagés du mauvais côté. Donc c'est l'égalité devant la loi qui est un des grands principes, devant l'impôt, pas la loi, devant l'impôt, et qui est un grand principe un peu fondamental, un pilier, voilà. Voilà. Et il n'y a pas d'appel. Je rappelle qu'il
n'y
a pas.
Non, le Conseil constitutionnel, il rend un avis définitif. Hein? Et son rôle, c'est de voir que la loi est vraiment conforme à la Constitution. Donc, ce que je vous disais, la Constitution, c'est ça. Mais les commentaires de la Constitution, le droit constitutionnel, ça prend tous les murs.
Oui, ça s'appelle le bloc constitutionnel.
Vous avez eu des conférences là-dessus, donc vous êtes beaucoup plus.
On a eu Françoise Fortuné, qui était quand même doyen de la fac de droit de Dijon, qui a été notre conférencière de droit pendant des années. Maintenant, elle a émigré dans l'Ain. Mais elle nous a parlé de, entre autres, du bloc constitutionnel.
Alors, pour continuer l'exemple, le gouvernement travaille actuellement sur la taxe d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation. Eh bien, peut-être que dans une commune, vous allez avoir que des habitants qui ne paieront pas du tout la taxe d'habitation. Ou un seul, pour tout le monde. Eh bien là, le Conseil constitutionnel va dire ça, c'est pas possible. Donc il y a une idée qui germe, on dit tiens, on va faire ce truc-là, c'est génial, on va en exonérer la moitié, on va compenser les communes, ça va être formidable, ça va redonner du pouvoir d'achat, parce que. Et puis en fait, eh ben non, ça va probablement être retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà. Voilà. C'est.
D'autres questions ?
C'est quoi les administrateurs ?
Ah. Alors, les administrateurs, c'est les gens qui nous rendent intelligents. Là, dans la mission que j'ai actuellement sur les agressions sexuelles des mineurs, je travaille avec deux administrateurs. Donc, les administrateurs, c'est des techniciens de haut vol qui ont une formation très pointue, certains peuvent être énarques, etc., qui connaissent la mécanique de la loi sur le bout des doigts, qui savent réécrire les choses, ils nous réécrivent les auditions en faisant référence à là en particulier c'est les articles du code pénal qu'elles me ressortent, tac 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 tac, là on a auditionné trois procureurs, on a auditionné la direction des affaires criminelles et des grâces, mon administratrice va me synthétiser ça en deux pages avec les références de tous les codes qui sont mis, si tu veux, en action avec les auditions qu'on aura faites. L'administrateur, c'est le technicien, c'est comme dans une commune, c'est comme Jean-Louis au Grand Chalon, c'est l'élu, il est là pour avoir une idée de quelque chose. Il dit, tiens, on va faire une patinoire à Châtenois, eh bien, le technicien, il va faire l'étude de sol, toi qui es ingénieur, il va faire l'étude de sol, il va venir nous dire, eh ben voilà, il faut qu'elle fasse telle surface, il faut que la glace soit épaisse comme ça, il faut qu'elle fasse cette dimension. Le technicien, il apporte des éléments techniques, donc l'administrateur va nous apporter l'élément technique, et l'élu ou le sénateur, c'est plutôt l'esprit de la chose. Voilà. Alors, les administrateurs, je pense qu'il y a 348 sénateurs. En tout au Sénat, il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent. Et en administrateur, parce que c'est vraiment le dessus du panier, j'ai envie de dire peut-être 200, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de lois qu'on ne peut pas. Il y a des propositions de loi qu'on ne peut pas examiner parce qu'il n'y a pas l'administrateur de disponible, parce qu'il travaille sur d'autres textes. Il travaille sur plein de textes en même temps. Et on peut être réduit parce que c'est vraiment des gens de très très grande qualité. Donc très souvent, ils commencent par l'Assemblée nationale, ils passent au Sénat et ils finissent au Conseil constitutionnel ou alors seraient sur le gâteau au Conseil d'État. Et puis au Sénat, il y a un grand polymorphisme. Enfin, ils font plusieurs. Ce qu'on a à la commission des lois, celui qui était à la commission des lois, est passé à la direction de la séance. C'est-à-dire qu'il grimpe dans l'échelle, parce que la direction de la séance, c'est l'endroit où vraiment on peut reformuler aussi ce que dit un sénateur de façon à ce que ce soit compréhensible dans le langage juridique. Donc l'administrateur, c'est vraiment un maillon très, très important. Ah oui, et puis il nous forme aussi. Il nous apprend les choses, parce qu'à lui, on peut tout dire. Quand on n'a pas eu de formation professionnelle sur ce sujet, lui, il nous réexplique les choses. C'est notre aide, notre collaborateur pour tel ou tel ce que font Frédéric et François au bureau parlementaire quand ils lisent les amendements et tout ça. Ils ont un regard professionnel.
Une autre question ? Oui ?
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le fait que le président Macron a dit qu'il, s'il y avait des difficultés, il souhaitait légiférer par ordonnance, et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat n'auraient plus de valeur. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ?
Alors, le président Macron, il a fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire les ordonnances sociales, hein, appelons les ordonnances sociales, elles sont passées. Il n'y a pas eu le troisième tour social en disant tout le monde va être dans la rue, ça va être une horreur. Non, il a fait ce qu'il avait dit. Là où il ne faut pas être déloyal, ce serait de tout passer par ordonnance parce que ça n'a plus de sens. On est dans une démocratie. C'est le peuple qui a choisi son président de la République. Le président de la République, c'est le pouvoir exécutif, mais le pouvoir législatif, c'est le Parlement, le pouvoir judiciaire, la justice. La France, elle est fabriquée comme ça. Donc les ordonnances sociales, il fait ce qu'il a dit et il a été élu avec ce programme-là. Donc moi, d'ailleurs, il n'y a pas eu de difficulté. Je ne juge pas le bien fondé.
C'est passé devant le Parlement, il ne faut pas l'oublier, les ordonnances.
C'est passé aussi devant le Parlement.
Pour que les ordonnances passent, il faut déjà passer devant le Parlement.
Oui, mais voilà. le Parlement, souvent, légifère sur des choses qui sont déjà en action, en plus. Donc, oui. Mais il n'y a pas de malhonnêteté, là. Alors, ensuite se pose la question, d'abord, est-ce qu'un Parlement est nécessaire, à ce moment-là ? Après tout, on peut aussi se dire, écoutez, un gouvernement, des ministres, ça suffit. Et puis on ne travaille plus les lois comme ça, on peut aussi se dire ça. Puis on peut se dire, après tout, les élections, est-ce bien nécessaire ? On peut avoir un Kim Jong-un qui arrive et puis qui fait tout seul. On peut aussi se poser un tas de questions comme ça. Donc là, en ce qui concerne ces ordonnances-là, c'était dit, le travail du parlementaire, c'est-à-dire de réfléchir à la loi et d'apporter quelque chose de différent et d'être cette voix différente, pas le contre-pouvoir, mais cette voix différente, c'est l'équilibre de notre démocratie et de nos institutions. Et quand on connaît un petit peu ça, tout est écrit là-dedans. Et la Constitution de la Ve République dit que le Parlement est à l'origine des lois comme le gouvernement. Voilà. Je vais vous expliquer un peu en gros mon sentiment, mais de l'utilité du Parlement, en fait. C'est ça la question, c'est l'utilité du Parlement. Alors peut-être que le peuple à un moment va parler. Le peuple n'a pas parlé en septembre parce que c'était ce qu'on avait dit. Mais si un président de la République finit par tromper le peuple et que le peuple se sente floué, le français est un résistant. Le français, il ne va pas supporter longtemps qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas. Donc il faut faire confiance, et en l'occurrence... faire confiance au président de la République qui doit connaître le peuple français. Et je pense que le président de la République n'ira pas mettre le pays à feu et à sang. Il y a eu 1789, la France, elle est capable de se mettre, de faire corde pour une cause commune. C'est comme ça qu'il y a eu la résistance et qu'on a gagné la deuxième guerre, etc., etc., avec les alliés. Mais je crois que le président de la République connaît suffisamment le peuple français pour savoir que le peuple français, on ne le roule pas dans la farine, quoi. Bon, c'est peut-être pas très professionnel, mais c'est un ressenti.
Encore deux questions et puis on va conclure.
Je ne sais pas si, François, vous voyez quelque chose à dire de plus sur les institutions et sur les ordonnances. Non, on ne peut pas développer.
Oui, je parle tous les deux alors.
Oui. Hein?
Pardon.
Ben oui,
oui. Est-ce que vous est-ce que vous réfléchissez à modifier la Constitution sur l'écriture du principe de précaution qui nous semble farfelu dans un certain nombre de cas ? Au nom du principe de précaution, on finit par faire n'importe quoi ou refuser n'importe quoi.
Alors, le principe de précaution, il faut bien savoir que le principe de précaution, c'est un principe d'action. Qu'à partir du moment où on imagine qu'il faut prendre des précautions, ça veut dire qu'on va agir. Donc c'est le parapluie, c'est la ceinture, c'est les bretelles, c'est l'imperméable, c'est la capuche, c'est le chapeau, et on ne s'arrête plus. Donc si vous parlez à l'élu local, vous savez, on n'organiserait jamais de concerts dans nos communes, on ne ferait jamais de centre de loisirs pour les enfants en vertu du principe de précaution parce qu'il y en a un qui peut tomber, on ne ferait pas de la pêche à l'étanchement des fois qu'on glisse et qu'il y en a un qui tombe. Enfin, donc le principe de précaution, qui est un principe d'action, ça cadre des choses. Peut-être qu'à un moment, votre question, c'est plus de savoir est-ce qu'on ne doit pas admettre que le risque fait partie des choses. C'est ce que j'avais compris dans votre question.
Oui. Bon.
Oui.
C'est le séisme ouais. Millénaire.
Ben.
Voilà. Bon, écoute.
Ça, on a ce problème avec le plan de prévention des risques, oui. Avec la Saône oui. Qui monte. Oui, oui. Comme la Saône doit monter, c'est pour ça qu'il y a eu tous les petits escaliers partout. Oui. Maintenant, avec la loi sur l'accessibilité, il faut enlever les escaliers. Donc, il faut remettre tout le monde à plat. Donc, si la Saône remonte, donc vous voyez.
Bon.
C'est, je vais juste conclure en disant que. Oui. Quelquefois, il y a des choses très paradoxales et que le droit, parfois, est là pour donner un semblant de raison à des choses démentes. Vous me suivez ? Pourtant, c'est ça. Une apparence de raison à des choses qui, prises séparément, sont démentes.
Denis, on met le principe de précaution dans un sujet de conférence l'année prochaine dans le droit, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Et alors, il y a encore une autre question et on s'arrête là. Dans l'administration, vous voulez dire ?
Ils sont pas. Alors.
Ah, les grands électeurs. Les grands alors... électeurs. Ah, le scrutin de indirect, quoi. Voilà.
Alors, le scrutin indirect, donc le mode de scrutin pour élire les sénateurs, c'est donc les grands électeurs, donc les maires, ils ne sont pas nommés, ils ont été élus. Les conseillers municipaux, donc vous avez un nombre de grands électeurs par commune. À Châtenois, on était 15 pour le scrutin de 2014. Donc
j'en ai fait partie.
Voilà. Donc le maire et les 14 conseillers municipaux suivants qui sont élus par le conseil municipal. On fait l'élection des grands électeurs. Et ensuite, les grands électeurs élus, donc pas nommés, vont voter pour représenter... Pour le sénateur qui choisit pour représenter la collectivité territoriale. Alors, quelquefois, il y a des grandes villes, par exemple Chalon-sur-Saône, vous n'avez pas assez d'élus pour être grands électeurs. À ce moment-là, on se tourne vers les associations, la société civile pour compléter. Ce qui fait que ça explique que certains soient grands électeurs. Mais c'est à la marge.
Alors, voilà. Je vous propose maintenant d'applaudir et de remercier Marie. Et vous ne vous sauvez pas tout de suite, puisque évidemment j'ai encore quelque chose à dire. Donc je vais vous donner quelques détails sur la visite du Sénat qui est prévue donc le 12 mars, c'est un lundi. La visite a lieu en deuxième partie d'après-midi à partir de 15h30. La première partie de l'après-midi, ce sera la visite du musée du Luxembourg. Là, on revient à Marie de Médicis.
C'est Rubens.
Voilà.
En ce moment, c'est Rubens. C'est magnifique.
Donc, on déjeunera sur place. On pourra y aller en bus, puisque d'après nos informations, il y a des facilités, entre guillemets, de bus. Donc, le nombre de personnes maximum est limité à 40 pour des contraintes de la visite du Sénat. Donc, on n'a pas encore les prix de tous les prestataires. Si vous êtes intéressé, vous vous manifestez, dardard, parce que je pense qu'on n'aura pas le prix bouclé pour la fin du mois pour le bulletin. Enfin, peut-être, on va essayer, mais à minima, on mettra, si vous êtes intéressé, bon, c'est un voyage d'une journée, ça va être un ordre de grandeur, si vous voulez, entre 80 et 100 euros, quelque chose comme ça par personne, en prenant le repas, le bus, la visite du musée, et puis voilà, le pourboire du chauffeur.
La visite du Sénat est gratuite.
Oui. Non, mais... Si vous voulez, quand on le présente dans le bulletin, bon, tout est bouclé et vous pouvez vous inscrire. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, manifestez-vous et pas à la dernière minute parce que c'est compliqué, quoi. Voilà, comme tous les voyages du TB, mais vous connaissez mon discours récurrent sur l'organisation des voyages. Voilà. Merci Marie.
Mais merci de ton invitation et merci à vous. Vous avez été un auditoire passionnant. Merci.
Thank you.